ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce la vérité?
Pourquoi
RFI.
RFI.
Pourquoi RFI dit ça? Juliette Rangeval.
Bonjour. Comment RFI établit-elle la hiérarchie de l'information? Avons-nous plus parlé du passage du cyclone Chido à Mayotte ou au Mozambique? Choisissons-nous systématiquement d'insister sur l'actualité négative plutôt que sur toute l'actualité, notamment culturelle? Vous nous posez la question. Mais d'abord, les États-Unis, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, il y a du changement dans la salle de presse de la Maison-Blanche et les journalistes étrangers notamment en font les frais. Alors la presse étrangère est-elle fragilisée dans l'Amérique trumpienne? Direction Washington pour le savoir.
Two questions. So we now know that the staffing was not normal at the air traffic tower.
Bonjour Sonia Dridi.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante à Washington de plusieurs médias francophones et notamment de France 24, membre de l'Association des correspondants étrangers de la Maison Blanche. Alors ça veut dire que vous avez une accréditation presse et même un peu mieux que ça puisque vous avez accès dans certaines occasions au bureau ovale. Correspondante bien établie donc, vous travaillez aux États-Unis depuis plus de 9 ans et le changement dans la salle de presse, vous avez eu à le subir il y a quelques jours, lors d'un point avec la nouvelle porte-parole, vous avez posé une question en anglais et vous avez ensuite été critiqué par une élue MAGA, Marjorie Taylor Greene, qui ne vous s'en est pas pris au fond de votre question, hein, mais à votre accent. Elle a aussi affiché un certain agacement à l'encontre de la presse étrangère. Sonia, comment est-ce que vous avez vécu cette séquence ?
Alors, j'ai trouvé ça au départ complètement surréaliste d'être pris pour cible par Marjorie Taylor Greene, qui est cette élue complotiste, extrémiste, même pour une trumpiste, elle est vraiment à l'aile ultra-droite hein, du courant trumpiste. Et en fait, je savais très bien, comme vous l'avez dit, elle s'en est pris à mon accent, mais c'est parce que le fond de ma question l'a dérangée. D'ailleurs, la porte-parole de la Maison-Blanche m'avait répondu sans problème, elle avait tout à fait compris ma question, mais c'est notamment parce que sa réponse a fait polémique et a été très reprise par les médias américains que Marjorie Taylor Greene a entendu ma question et s'en est pris à moi. Alors, je voudrais juste dire que dans sa réponse, la porte-parole de la Maison-Blanche m'a notamment répondu « Lorsque vous prenez l'avion et que vous volez avec votre famille, est-ce que vous priez quand vous atterrissez pour atterrir en toute sécurité ?» Ou alors vous priez pour la couleur de la peau du pilote, cela parce que l'administration Trump a tenté de mettre en cause les politiques de diversité et d'inclusion pour expliquer le récent crash aérien qu'il y a eu à Washington DC. Donc en entendant ma question, qui n'était pas une question complaisante, eh bien Marjorie Taylor Greene s'en est pris à mon accent en disant « Regardez l'accent de cette reporter, je pense que tous les médias étrangers devraient être virés de la salle de presse ». Et elle s'en est pris plus largement aux médias dits mainstream, libéraux, parce qu'elle a dit « ce sont des nasty legacy médias ».
On l'entend, Sonia, cette attaque contre les médias traditionnels, mainstream, contre la presse étrangère aujourd'hui. Est-ce que ça anticipe la transformation du paysage médiatique que veut Donald Trump ?
Tout à fait, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Désormais, lorsqu'on est dans cette salle de presse, il y a vraiment de nouvelles voies médiatiques, c'est-à-dire des médias proches du pouvoir. Et ce sont des personnes qui ne sont même pas des journalistes. Il y a notamment, je pense, à une correspondante pour un podcast de Steve Bannon, qui est un ancien conseiller de Donald Trump. Donc, moi-même, lorsque j'étais dans ce premier point presse de cette nouvelle administration Trump, j'avais l'impression d'être dans une salle de presse d'un pays autoritaire avec des médias dits de propagande. Et pour avoir été en Égypte, vraiment, ça me rappelait un petit peu cette époque après la Révolution, parce que les questions de ces journalistes qui sont désormais accrédités à la Maison-Blanche, eh bien, sont extrêmement complaisantes avec l'administration Trump. Notamment, je me rappelle un de ces journalistes d'un média proche du courant MAGA, hein, du courant Make America Great Again de Donald Trump, qui dit à la porte-parole « Merci de tenir ce point de presse, vous êtes magnifique aujourd'hui, alors on sait que Donald Trump est celui qui va réussir à faire la paix dans le monde. » Et en gros, c'était « Dites-nous à quel point il va réussir à faire la paix dans le monde. » Enfin, c'est vraiment surréaliste d'assister à cela.
Quand on fait partie de la presse étrangère, on a déjà une situation un petit peu particulière par rapport aux médias nationaux. Aujourd'hui, ça la fragilise, cette presse étrangère ?
Oui et non. Je pense qu'en effet, il y a des personnes dans l'administration Trump qui aimerait voir la presse étrangère être dégagée, tout simplement, pour faire plus de place aux médias complaisants avec le pouvoir. Mais aussi, moi j'ai l'impression que Donald Trump aime bien voir des journalistes étrangers. Moi, le même jour où j'ai posé cette question à la porte-parole de la Maison-Blanche, j'ai pu poser 3 questions au sein du bureau ovale à Donald Trump qui m'a répondu du tac au tac, sans problème. Il prend souvent des questions de mes collègues de ce groupe de la presse étrangère et on a l'impression qu'il se sert de nous aussi pour faire passer des messages au reste du monde et qu'en tout cas, au sein de la Maison-Blanche, pour l'instant, on n'a pas l'impression d'être directement en danger, même si on sait que notre position est beaucoup plus fragile. En fait, on ne sait absolument pas à quoi s'attendre, mais on essaie vraiment de tisser des relations aussi avec les nouveaux membres de cette équipe presse de cette nouvelle administration pour qu'ils nous connaissent et pour leur faire comprendre à quel point c'est important que la presse étrangère ne soit pas exclue. Ce qu'on a perdu, c'est que la porte-parole ne prend plus automatiquement, comme c'était la tradition, une question du journaliste étranger du jour. C'est complètement aléatoire. Donc, il y a vraiment une réflexion qui se met en place pour leur faire comprendre qu'ils ont aussi besoin de nous.
Merci beaucoup, Sania Dridi.
Pourquoi RFI dit ça ?
Quelle est notre hiérarchie de l'information ici à RFI ? C'est le sens des questions que nous pose Constant Odungfa. Il nous reproche d'avoir très peu couvert les conséquences du cyclone Chido au Mozambique, alors que dans le même temps, dit-il, on a eu droit à une foule d'émissions spéciales pour Mayotte. Bonjour Laurent Corot, rédacteur en chef au service Afrique. Que peut-on répondre à cet auditeur ?
Alors oui, effectivement, nous avons fait moins sur le Mozambique que sur Mayotte. Ça, c'est un fait, même si nous avons traité de la situation sur place et que nous y avons accordé de l'attention. Mais là aussi, ça n'est pas par désintérêt pour le Mozambique. C'est un ensemble de facteurs que je vais essayer de résumer. Nous n'avons pas de correspondant au Mozambique alors que nous en avons un à Mayotte. Et puis en France, la gestion de ce qui s'est passé à Mayotte a suscité une polémique très vive. La responsabilité de l'État a été mise en cause par de nombreux acteurs français et cela justifiait une couverture plus dense puisque au Mozambique, on n'a pas eu une polémique de ce genre.
Laurent, dans son message, cet auditeur nous dit avoir été assez surpris également par notre couverture de l'actualité au Bénin. Consacrer plus d'antennes à une attaque terroriste qu'au Vodun Days, un festival qui promeut la culture vaudou au plan international, cela donne l'impression, nous écrit-il, d'un choix clairement fait pour l'actualité négative plutôt que pour toute l'actualité.
Merci Monsieur Odungfa pour cette question. C'est vrai que sur les Vodun Days, nous avons traité cet événement culturel important par un son, un extrait sonore du professeur Maounion Kakpo, qui est député et qui est président du comité des rites vaudous du Bénin, et nous n'avons pas fait plus cette année. Alors pourquoi ? Certainement pas par volonté de privilégier l'actualité négative, vous l'avez peut-être remarqué, mais ça fait déjà un moment que nous mettons en place un dossier quotidien le matin, qui s'intéresse à l'actualité culture, société, et je reprendrai l'expression que vous utilisez, Monsieur Odungfa, avec la volonté de traiter toute l'actualité africaine. Ces derniers jours, par exemple, nous avons traité des nouvelles tendances musicales en Afrique du Nord, d'une pièce de théâtre au Kenya sur le twist africain dans les années 60, de l'avenir du cinéma en Afrique à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, il y a à RFI l'ambition éditoriale de traiter toute l'actualité africaine. Et du coup, j'en reviens au Vodun Days. Pourquoi avoir fait un seul son cette année ? La décision, certes qu'on peut discuter, on pourrait en débattre, elle a été prise parce que l'année dernière, justement, sur les Vodun Days 2024, nous avions mis beaucoup plus de voilure sur la couverture de cet événement. Nous avions une envoyée spéciale, Magali Lagrange, qui était sur place, qui a fait de très beaux reportages, notamment un grand reportage intitulé « Bénin dans le berceau du vaudou » qui est disponible à la réécoute sur le site de RFI. Et donc, nous avions décidé cette année, peut-être, d'en faire un peu moins par rapport à la couverture qui avait été développée l'année dernière.
Merci Laurent Corot. Et puis ce qu'on peut dire à Monsieur Odungfa, peut-être, c'est d'aller jeter une oreille au programme d'RFI, car il a été question des Vodun Days à travers l'émission Religion du Monde, et je dirais même plus que de ces festivités, il a été question de la spiritualité vaudoune. Bonjour Véronique Guémard.
Bonjour Juliette.
Vous étiez au Bénin le mois dernier, vous avez produit 2 émissions qui sont disponibles à la réécoute sur le site de RFI.fr. Alors bien sûr, vous mentionnez les célébrations autour des Vodun Days, mais vos émissions, elles portent sur bien plus que ça.
Oui, l'idée dans cette émission Religion du Monde, c'est d'expliquer de quoi on parle. Donc on dit le vaudoun hein, au Bénin, donc croyance, spiritualité, philosophie de vie, pour tendre vers l'harmonie entre les hommes, les ancêtres, les forces de la nature, la terre, l'air, le feu, l'eau. En fait, expliquer pourquoi et comment s'articulent ces croyances. C'est tout un panthéon extrêmement vaste, complexe. À quel moment on va invoquer en fait ces différents dieux? Par exemple, quand on attend un enfant ou quand on veut un enfant, on va aller invoquer les dieux. On va leur demander aussi une intercession pour obtenir des choses dans la vie. L'idée, c'était d'aller auprès des personnes, auprès de personnes aussi qui pouvaient m'introduire dans différents temples. On parle de couvents, hein, les couvents du vaudou, pour rencontrer des personnes qui sont initiées et qui vont aussi faire un certain nombre de cérémonies, expliquer, essayer de comprendre en quoi ça consiste.
On va en reparler. Déjà, on va écouter une de ces personnes qui est adepte du vaudou.
Le vaudou, ça sauve, ça fait du bien. Bon, nous sommes très contents qu'il y a une, deux, trois jours qui est œuvré pour la fête de vaudou. Nous sommes contents parce que ce n'est pas un truc qui est caché et ni un truc qui fait de mauvaises choses. Ça a sauvé nos aïeux, ça nous a sauvés aussi et ça nous fait du bien jusqu'à présent. Si vous avez un souci, venez consulter le vaudou. Rapidement, vous êtes sauvés.
On l'entend, Véronique, dans ce témoignage. Il y a une volonté de déconstruire l'image maléfique du vaudoun à travers l'activité culturelle, à travers l'événement culturel que sont les Vaudoun Days.
Oui, effectivement. Et c'est là-dessus que les autorités béninoises ont insisté et insistent depuis 2 ans en particulier. Faire des Vaudoun Days, effectivement. Donc une sorte de festival du vaudoun pour faire redécouvrir cette culture du vaudoun, attirer des touristes et par la même occasion déconstruire effectivement ces images négatives qui ont été colportées, et notamment par l'Église catholique, par les missionnaires, par la colonisation, à l'encontre de ces croyances ancestrales, donc du vaudou.
Donc un aspect touristique, un aspect décolonial politique hein, dans l'événement à l'occasion duquel vous vous êtes trouvé au Bénin.
Effectivement, et d'ailleurs même le président béninois était présent au Vaudoun Days, hein, il s'est rendu à différentes cérémonies, il était là pour montrer son attachement effectivement à cette fête du Vaudoun.
Et vous avez pu en rendre compte. Et alors pour réaliser ces émissions, vous vous êtes rendu donc à Ouida, là où ont lieu les Vaudoun Days, mais pas seulement, où est-ce que vous êtes allé et comment est-ce que vous avez choisi les endroits où aller au Bénin?
Je voulais aller vraiment dans au cœur, on va dire, de certains couvents. Et je me suis rendue à Abomey, qui est la cité historique des rois d'Abomey. Hein, très liée donc au culte traditionnel Yoruba, aux divinités Fon et Ewé qu'ils ont introduit et intégré lors de l'expansion de leur royaume. Et j'ai pu rencontrer quelqu'un qui est un petit peu la mémoire d'Abomey, qui était mon guide aussi à Abomey, qui m'a introduit auprès de différentes personnalités, notamment, par exemple, le président de la Cour suprême du Vaudoun. Donc, il y a une Cour suprême du Vaudoun, je ne savais pas. Bon, voilà, donc c'est intéressant de le savoir.
On l'a appris avec vous en écoutant les émissions.
Et également, qui m'a introduit auprès d'un couvent, donc où il y avait une cérémonie, la nuit, puisque c'est souvent la nuit que ça se passe. Donc là, en l'occurrence, c'était à 4 heures du matin, auprès d'un couvent, le couvent du dieu Sakpata, dieu de la terre. Et donc là, c'était la petite communauté hein, du couvent qui se retrouvait avec une partie de la communauté autour également et qui célébrait cette cérémonie pour remercier le dieu de ce qui s'était passé pour l'année précédente et faire des demandes pour l'année suivante puisqu'on était à la veille du 10 janvier, donc la fête du Vaudoun.
On n'est plus du tout sur le spectacle, on est bien plus sur le rite, sur la spiritualité. Je vous propose d'écouter un extrait de ce reportage qui est donc à retrouver dans Religion du Monde.
Moi, je m'appelle Piridi Avadiar. Moi, j'ai 22 ans. Je suis analyste programmeur.
Vous êtes initié ici dans ce couvent ?
Je suis initié, c'est ma mémé qui est le yah de la maison. Il nous inculque généralement le respect. Moi, ici, c'est juste l'art autour du Vaudoun. Les rythmes, la danse, j'aime tout dedans en fait, j'aime tout. Il y a même des miracles qui s'opèrent, donc voilà, je suis croyant et voilà. Là maintenant, ils sont en train de faire des cérémonies dans la maison. Quand ils vont finir la cérémonie, ils vont sortir pour faire ce qu'on appelle le zandrodro. Vous allez voir des tam-tams qui sont là et tout et tout. Et il y a quelques cérémonies qu'ils vont faire là.
Le zandrodro, c'est une veillée nocturne avec des rituels. On verse de l'eau par terre pour le vaudoun. Une poule sacrificielle est portée en offrande au dieu Sakpata. Quelques heures après, la cérémonie commence.
Un extrait de ce reportage donc à retrouver dans Religion du Monde, Véronique Guémard, deux émissions consacrées au vaudoun et l'occasion de retrouver toute une série d'émissions sur les religions traditionnelles. Let's rock. ChatGPT can control me. ChatGPT can control me. Pourquoi RFI dit ça comme ça? Bonjour Frédéric Genoux.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Nous avons beaucoup parlé intelligence artificielle ces derniers jours à l'occasion du sommet qui s'est tenu à Paris les 10 et 11 février. L'IA qui est partout.
Oui, mais pas à l'antenne. Ce que vous entendez, ce sont bien nos voix, celles des journalistes et animateurs de RFI. Nous avons d'ailleurs à France Média Monde un guide des bonnes pratiques de l'intelligence artificielle. On y retrouve des préconisations telles que une IA n'est pas un moteur de recherche, c'est un outil de traitement du langage, pas du savoir. Le résultat final doit toujours être validé par un humain. Autre exemple, il est interdit de générer des images, des sons ou des vidéos dont le réalisme pourrait créer une ambiguïté. Ou encore, il faut appliquer une transparence absolue. Autrement dit, si l'intelligence artificielle a été utilisée pour un sujet, il est obligatoire de le signaler.
Est-ce que ce sont des garde-fous indispensables ?
Oui, Juliette, parce que c'est ce qui peut maintenir la confiance entre nous et les auditeurs. À ce sujet, une célèbre émission de France Culture, Les Pieds sur Terre, a proposé la semaine dernière un programme entièrement fait par une intelligence artificielle qui avait été nourrie au préalable de plus d'un millier d'épisodes. C'est une émission qui propose des récits très personnels, parfois étonnants. Au-delà du fait que pour la plupart des auditeurs, c'était assez bluffant, l'enseignement de cette expérience est que c'est un miroir qui permet d'identifier les tics de langage ou une certaine redondance dans la construction des sujets. Ça, c'est positif parce que cela peut aider ceux qui font l'émission à se renouveler. L'autre enseignement, c'est que quand on sait que tout a été inventé, ça n'a plus d'intérêt. Il est donc primordial que les auditeurs puissent continuer à faire confiance à la radio qu'ils écoutent, et cette confiance, elle s'obtient et se conserve grâce à la qualité de ce qui est proposé et une vérification rigoureuse de plusieurs sources.
Quelles sont les utilisations les plus fréquentes de l'intelligence artificielle ?
Alors, mon dernier exemple concret remonte au mois d'octobre, au moment de l'attribution des prix Nobel pour la physique ou la chimie, par exemple. Il n'est pas donné à tout le monde de traduire un intitulé de travaux scientifiques en quelque chose de compréhensible pour l'auditeur. Or, c'est bien ce qu'on nous demande. Nous avons essayé d'aider la journaliste qui devait aller à l'antenne en demandant à des intelligences artificielles. En l'occurrence, la journaliste n'a pas du tout apprécié ce qui lui était proposé et elle est allée voir Simon Rosé, chef du service environnement qui s'y connaît en sciences et dont l'intelligence n'est pas du tout artificielle.
Et en ce qui concerne les traductions?
Si vous me permettez de donner quelques exemples de traductions générées par l'IA, non pas à RFI mais dans la vraie vie, une sauce à base de très chaud poivron, very hot peppers, au lieu de sauce au piment très épicée. Vous avez aussi, et là encore, hein, c'est un exemple authentique, n'arrêtez-vous pas en la zone jaune pour do not stop in yellow zone, ne vous arrêtez pas dans la zone jaune. Et j'aime beaucoup aussi cette étiquette dans une boulangerie qui affiche un croissant increasing au prix de 1,05€, increasing étant le participe du verbe croître en anglais et non pas la traduction de cette viennoiserie qu'on appelle un croissant.
Oui, mais là, c'est parce que ça n'a pas été relu, Frédéric.
Tout à fait, Juliette. Et comme mon oreille traînait dans un studio la semaine dernière au moment où Pauline Leduc faisait faire des traductions d'un grand reportage, je dois, à mon grand regret, admettre que tout n'est pas toujours relu chez nous non plus. Sans la vigilance de la réalisatrice, nous aurions entendu parler du tigre Bingo, entendu quelqu'un dire qu'il n'était pas allé en Afrique du Sud depuis des siècles, et qu'un autre élevait une variété particulière de dieu. Cet éleveur avait en fait un troupeau de chèvres, goats. L'IA a cru entendre goats, dieu, et n'a apparemment pas considéré qu'élever des dieux n'avait aucun sens. L'IA est partout, mais méfions-nous, Juliette. Le diable est plus que jamais dans les détails.
Pourquoi RFI dit ça? À la réalisation, Françoise Grelot. À bientôt.